RMC jusqu'à 18h. Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour est le final de cette 11e étape du Tour de France en direction de Montpellier. Nous sommes à un petit peu moins de 60 km de l'arrivée et c'est la pagaille sur les routes du Tour aujourd'hui avec ce vent, cette tramontagne et ce Mistral qui font des ravages dans le peloton avec des coups de bordure qui sont tentés par les hommes de tête et notamment par la formation Sky. On a même vu Fred il y a quelques instants le maillot jaune en personne se mettre à l'avant du peloton et imprimer un rythme d'enfer.
Oui, le peloton qui n'est plus composé de 80 unités environ, on en a perdu avec notamment Thibaut Pinot, Tony Galopin également est en difficulté. Effectivement, ce sont bel et bien les Sky qui sont les plus actifs, ce ne sont pas eux qui ont provoqué les hostilités tout à l'heure à mi-étape environ, mais ce sont eux qui ont prolongé les grandes manœuvres avec effectivement Christopher Froome lui-même, le maillot jaune à l'avant du peloton, les mains en bas du guidon, qui prenait ses relais, tout comme Luke Rowe ou Ian Stannard, ses compatriotes et coéquipiers britanniques. Peloton groupé à 55 km de l'arrivée, parce que oui, il y a avis de grand vent, le peloton dans la traversée. Écoutez bien le nom du village, Alignan du Vent, et il n'y a pas de hasard, Alignan du Vent, une communauté bien nommée aujourd'hui. Une chute dans la traversée de ce village en ce moment, avec Rafał Majka, le coureur polonais, qui a été pris dans cette chute, le coureur de la formation Tinkoff. On était en train d'en terminer avec le franchissement d'un des très nombreux ralentisseurs de la journée. Beaucoup trop d'aménagements urbains sur cette route, avec notamment un coéquipier de Valverde et Quintana, Wiener Anacona, qui est tombé et qui semble souffrir. Tiens, il a le dossard 13, le colombien de la formation Movistar. Un peloton en file indienne à 55 km de l'arrivée.
Et ça va pas ralentir l'avancée du peloton, Jérôme. Là, on va pas se désorganiser un peu en tête de course.
Non, parce que là, maintenant, on est lancé. On est parti dans les grandes manœuvres du côté de Tinkoff. Alors peut-être qu'on va se relever un peu parce que Majka est tombé. Mais on l'a dit tout à l'heure, on passage au kilomètre 49. Après le sprint intermédiaire, on est sur des grandes routes très large, très exposé au vent. Le vent viendra de côté, trois quarts d'eau. Et là, c'est vraiment l'idéal pour créer une bordure. Donc, malheureusement, pour les attardés, les surchutes et les premiers qui ont été victimes des bordures, je pense qu'on ne reverra plus la tête du peloton.
Oui, la physionomie est identique. Cyril, ça continue de rouler très vite en tête de course. Hein.
Oui, c'est très nerveux, très tendu et c'est tout à fait logique. On voit quand même certaines équipes qui essayent de voir à combien ils sont en encore. On a vu tout à l'heure Valverde qui prend énormément de vent avec Quintana dans la roue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui il remplit vraiment son rôle d'équipier par rapport à son leader colombien. On voit vraiment tous les favoris qui sont même obligés d'aller prendre des relais, parce qu'il vaut mieux aller prendre un relais que de rester dans la tourmente ou de se faire enfermer et de reculer. Et c'est la raison pour laquelle Fred le soulignait tout à l'heure, même Froome prend les relais. Oui, si vous n'êtes où vous fermez la porte, où vous tournez et vous prenez les relais, même si vous êtes maillot jaune. C'est ça la règle du vent.
On a une bonne nouvelle, hein, côté français, Cyril. Tout à l'heure, on annonçait Pierre Roland plutôt à l'arrière du peloton et dans une cassure. Non, il est bien là, il est même en deuxième ligne, très bien placé, Pierre Roland. Donc ça veut dire que ses blessures vont mieux. Et la deuxième et la grosse chance du jour côté français, Brian Coca. Brian est aussi dans ce premier groupe. C'est une bonne nouvelle parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il était un peu dans les 80-90e position. Il fallait pas traîner là et apparemment ses équipiers ont fait le boulot. Ils ont replacé Brian Coca. Pierre Roland est là aussi. C'est une très très bonne nouvelle pour les Français.
Fred, est-ce qu'il y a des piégés dans le peloton, des noms importants de ce peloton du Tour de France qui sont fait piéger par les bordures?
Alors pas des prétendants au classement général, ou alors pas de coureurs qui sont toujours en lice pour le classement général, puisque l'une des principales victimes n'est autre que Thibaut Pinot, porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur, mais complètement hors jeu au classement général. Sylvain Chavanel également out, tout comme Tony Martin. Pas de grands battus. Peut-être que Rafał Majka, le polonais de l'équipe Tinkoff, va maintenant avoir beaucoup de mal à rentrer sur ce premier peloton, puisqu'on le rappelle, il a été victime d'une chute il y a quelques instants. Dans 3 km, le sprint intermédiaire de Pézenas, et voilà pourquoi les Tinkoff sont à l'avant de ce groupe depuis de nombreux kilomètres maintenant. Les Tinkoff qui misent tout sur Peter Sagan depuis l'abandon de leur espagnol Alberto Contador. Les Tinkoff qui ont créé tout à l'heure une bordure avec notamment le polonais Bodnar et l'italien Matteo Tosato. Le maillot maillot vert, Peter Sagan, auteur d'un numéro aujourd'hui, devrait à nouveau récolter de gros points dans le sprint qui va intervenir dans 3 km maintenant. Le peloton qui est à nouveau plus ou moins en forme académique, on va dire, puisqu'il occupe l'intégralité de la largeur de la route. Tous les sprinteurs...
ce qui est logique, Fred, puisqu'on est maintenant dans une traversée de village et que la route est encaissée, il n'y a donc plus de vent, donc ça ralentit.
Ouais. Mais après le passage au sprint intermédiaire, ça va de nouveau être propice au coup de bordure, hein, Jérôme, hein, dans 2 km maintenant. Hein,
oui, bien sûr, on a des...
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Alors, on va revenir évidemment dans un instant sur la route du Tour à 41 km de l'arrivée, mais tout d'abord les routes de France, Valentin Mailleux.
Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux sur la route pour ce week-end prolongé. La circulation est dense sur le périphérique. Par exemple, comptez 35 minutes en intérieur de Chapelle à Porte d'Italie. Puis prudence sur la 86 extérieure au nord. Un accident nous est signalé par la communauté Coyote à hauteur de Colombes en direction de Nanterre. À l'ouest, la 13 est déjà beaucoup de monde aussi. De Porte d'Auteuil à Orgeval, comptez 25 minutes au moins. Et puis vous êtes nombreux à prendre la direction du sud depuis Paris cet après-midi, bien sûr. Sur la 10 déjà, en direction de l'Atlantique, circulation dense de Vissou à Jonfry. Comptez 30 minutes de parcours. Pas trop de soucis encore pour le moment autour du péage de Saint-Arnoux. Nous, c'est chargé aussi sur la 6 pour quitter l'Île-de-France en direction de Lyon. Il vous faut 25 minutes. Et puis, en vallée du Rhône, c'est déjà compliqué depuis Lyon en direction de la Méditerranée. Sur la 7, vous êtes nombreux à partir en week-end dès cet après-midi. Comptez 40 minutes de trajet en plus pour atteindre le péage de Vienne. Et puis, à l'ouest aussi, sur la rocade bordelaise, coup de frein nombreux. Votre trajet est souvent rallongé de 30 à 40 minutes. Bon courage et bonne route sur RMC.
Allez, on revient sur les routes du Tour. 40 km 200 de l'arrivée de cette étape. Et donc, le peloton qui roule toujours à vive allure. Fred, il y a des dégâts puisque nous avons quand même des coups de bordure qui ont réussi avec un deuxième peloton qui pointe avec un retard de 45 secondes.
Oui, un groupe où l'on trouve notamment Thibaut Pinot. Et il me semble que Thomas Vauclair également est dans ce groupe débattu. Un deuxième peloton qui navigue à 50 secondes et qui est emmené par Roupette, comme l'appellent ses coéquipiers. Anthony Roux, le coureur de l'équipe. L'équipe FDJ, effectivement, Arthur Vichot a longtemps ouvert la route sur cette étape, le champion de France. Il a été avalé littéralement par le peloton, ou plutôt par une première partie du peloton, puisque le vent qui souffle très fort de manière trois quarts favorable a créé des cassures, des bordures et une vive accélération à l'avant de la course. Les équipes de sprinteurs, celle de Peter Sagan, mais aussi celle des prétendants à la victoire finale, les Sky de Christopher Froome, sont venus à la barre, ont mis un grand coup d'accélérateur et le peloton est scindé en deux parties, 55 secondes d'écart entre le premier et le deuxième peloton. On est à 39 km de l'arrivée, plus aucune échappée sur la route, sur les routes de l'Hérault.
Alors Jérôme, tu nous disais tout à l'heure qu'il y aurait peut-être de quoi faire un terrain propice aux attaques dans le final. Pour l'instant, ça s'est un petit peu calmé, mais ça peut repartir de plus belle à tout moment. Hein.
Oui, on est dans une partie où on a plutôt le vent favorable, trois quarts d'eau, plutôt favorable, mais on va vite retourner un petit peu sur la gauche et reprendre vraiment le vent de côté. Et attention, parce que c'est dans ces moments-là, on a tendance, quand on est dans le peloton, à s'endormir un peu. On se dit c'est bon, on est dans le bon groupe, on a chopé la bonne bordure, et puis finalement ça repart et ça se remet en route, et là on peut se retrouver en difficulté à coup sûr avec les derniers kilomètres qu'on a reconnus ce matin. La guerre des bordures n'est pas terminée, loin de là.
On se régale aujourd'hui en direction de Montpellier. Ce qui devait être une étape de transition se transforme en une étape à l'attaque. Allez, on va parier tout de suite sur RMC car on se rapproche de l'arrivée. 38 km 700. On va accueillir Benji dans un instant.
Les paris RMC.
BMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Et de retour Benji, ça faisait quelques jours qu'on l'avait plus entendu. C'est terrible ça. Bonjour Benji, comment ça va?
Salut messieurs, ça va très bien et vous?
Bah écoute, ça va pas mal. Alors évidemment, on se rapproche de l'arrivée, donc il est l'heure de donner les pronostics. Est-ce que les cotes ont évolué depuis hier soir, Benji?
Non, ça n'a pas changé. C'est toujours Marcel Kittel qui est le grand favori pour gagner cette étape. Les bookmakers s'attendent à une arrivée au sprint assez logique. 2,50 pour Kittel, derrière Cavendish 2,70, André Greipel 4,70 et Brian Coquard. Donc tous les sprinteurs sont à l'avant au niveau des cotes, Christophe.
Alors messieurs, qu'avez-vous parié? Monsieur Pinot, vous avez pas misé sur Brian Coquard parce que tu lui portes la Shkoumoun tous les jours.
Exactement.
Donc t'as décidé de changer de favori aujourd'hui.
J'avais décidé de changer de favori, j'ai toujours mon favori dans le groupe puisque c'est André Greipel, le gorille de Rostock, mon favori du jour.
André Greipel, le gorille de Rostock, on l'a pas trop vu, mais il est pas piégé. Hein,
il est pas piégé et on aperçoit son géant coéquipier allemand qui est à l'affût en tête de peloton. Je serais pas surpris de voir son équipe justement essayer de créer le break dans le final de cette étape. Il reste encore 40 km, on est un peu loin, mais dans les 20-25 derniers kilomètres, attention à l'équipe du gorille de Rostock.
Fred, tu nous as pas donné ton favori hier soir pour la victoire d'étape. Tu vas nous trouver encore un sprinter complètement méconnu.
J'aurais bien dit Groenewegen, le champion des Pays-Bas.
Groenewegen, c'est un peu le coquard de Fred. Hein. Il le met à toutes les sauces.
Il me semble un brin piégé. Michael Matthews est également parmi les battus. Hein. On rappelle qu'un deuxième peloton est à 30 secondes du premier peloton. Non, je vais mettre Groenewegen. Je vais miser sur un regroupement général et je cherche toujours la victoire avec une grosse cote. Dylan Groenewegen, le champion des Pays-Bas.
Groenewegen. Cyril?
Bien, moi je crois que j'avais mis dans le coup Kittel, me semble-t-il.
Ouais, exactement.
Voilà, ben je vais rester sur Kittel parce que il a encore pas mal d'équipiers autour de lui, ce qui n'est pas le cas de
tous. On l'a vu faire le sprint intermédiaire, je crois, tout à l'heure.
Hein, Marcel Kittel,
il n'y a pas eu de sprint. Hein. Là, vous pouvez vous effacer tout. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu se mettre à fond parce que justement, il y avait l'arrivée à Montpellier qui était quand même beaucoup plus importante. D'autant que les écarts de points ne permettaient pas à qui que ce soit de revenir pour le classement par points du maillot vert. Donc Kittel a souligné également que Maclay est présent dans ce groupe de tête.
Ok, voilà donc pour les principaux favoris. Moi j'ai misé sur Brian Coquard. J'espère que
t'as raison, Christophe, enfin t'as raison. Il est là le gamin.
Il est toujours dans le coup, Brian Coquard, avec ses équipiers de Direct Energy. Merci Benji, à tout à l'heure 19h40 pour parier sur l'étape de demain et pour faire le point sur celle d'aujourd'hui.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Fred, on se rapproche de la ligne arrivée. On va faire un petit point quand même sur la course avant de s'interrompre quelques instants.
Moins de 40 km de l'arrivée, 37 km à parcourir en direction de Montpellier. Les routes sont toujours battues par le vent, par la tramontane. Et c'est vigilance maximale. Le peloton qui occupe à nouveau l'intégralité de la largeur du peloton. Et un peloton qui pourrait se reformer puisque le deuxième groupe est pointé à 20 secondes maintenant. Un deuxième groupe toujours emmené par les coéquipiers de Thibaut Pinot qui fait partie des principaux battus. Jonction imminente apparemment, Jérôme.
Oui, on est en train de rentrer derrière, mais on a surtout roulé, je pense, pour Sébastien Reichenbach, hein, qui est la dernière petite chance en tout cas de classement général pour la FDJ. On est en train de rentrer tout simplement parce qu'on est né dans une partie où le vent est de dos. Il va falloir vite se replacer pour ces coureurs qui sont derrière parce que au kilomètre, à 22 km de l'arrivée maintenant, on va retrouver une fois encore des routes balayées par le vent, du vent de côté. Et quand on va rentrer dans les 20 derniers kilomètres, les équipes de sprinteurs vont commencer à se battre pour placer au mieux leur bolide et ça risque de frotter de nouveau et de casser derrière. Donc il va falloir vite remonter, messieurs.
Oui, et une bonne nouvelle quand même pour Brian Coquard, c'est que son poisson pilote Adrien Petit vient donc par la même occasion de reprendre place dans le peloton.
Oui, à noter l'hyperactivité de certains acteurs dans le peloton aujourd'hui. Ce sont les motoneutres qui ont été chargés pendant une quarantaine de kilomètres de ravitailler les membres du premier peloton. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc scission entre deux pelotons et les voitures de directeurs sportifs étaient coincées derrière le deuxième peloton qui était très fourni avec une soixantaine d'unités. Du coup, les motos neutres avec des bidons à l'arrière perchés sur le top case ont été sollicités. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui venaient ravitailler. Apparemment, il y a une règle qui est très claire. Un bidon par coureur. Vous ne chargez pas la mule pour aller ravitailler vos leaders. Interdit de faire le plein de bidons. Il en faut pour tout le monde. Si vous avez soif, vous descendez à l'arrière du premier peloton et on vous délivre des bidons. C'est bien ça, Jérôme ?
C'est exactement ça, tout simplement. Parce que des fois on charge un coureur mais il revoit jamais la tête, donc il faut redescendre à la voiture chercher. Les leaders sont venus avec peut-être un équipier chercher un bidon ou deux, mais jamais on ne donne 6-7 bidons dans ce genre d'étape. Quand on est un peu plus calme, il n'y a pas de souci, mais quand on est sur ce genre d'étape où ça peut casser à tout moment, on ne fournit pas la totalité des bidons de l'équipe à un seul coureur.
Et puis le rythme d'enfer imprimé par la tête de course, oui, ça donne soif.
Avec la chaleur et le vent.
Ne permet pas de se charger aussi de bidons. Hein.
Bien sûr, et puis le vent rafraîchit un peu les coureurs, mais il fait quand même presque 30 degrés sur la route, donc on n'a pas cette sensation de soif, mais il faut bien s'hydrater quand même, donc il est très important d'avoir des bidons régulièrement, et en plus dans le porte-bidon, les bidons ne sont pas thermaux, donc ils chauffent très vite. On doit souvent retourner à l'arrière, mais quand on a des journées comme ça, on n'a pas trop envie de retourner derrière, et donc le coureur souvent oublie de boire.
Bon. Oui, puis que l'eau soit chaude ou froide, elle hydrate de la même façon. Hein.
C'est quand même moins sympa de boire de l'eau chaude, Cyril.
Oui, c'est moins sympa, mais il faut la boire.
Sauf avec un peu de thé. Bon.
Sauf avec un peu de thé. Oui, ce que je veux dire, alors, juste une petite parenthèse, c'est que depuis le début de l'année, on a beaucoup accusé les motos et leurs motards d'irresponsables, etc. Une course cycliste sans moto, ça peut pas s'organiser. Mm-hmm. Et puis là, on est bien content de trouver des motos pour vous apporter un peu d'eau.
Alors, je sais pas si vous avez vu ce débat lancé par certains coureurs allemands, notamment Greipel, je crois, c'était dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, qui préconise qu'on arrête justement de mettre des motos en course, mais qu'on mette des scooters. Alors, on a un petit problème avec la moto RMC cet après-midi, mais je sais pas ce que vous en pensez, Jérôme. Est-ce que ça changerait quelque chose? Greipel dit que voilà,
pour l'agilité,
le poids d'une moto qui vous tombe dessus est beaucoup plus important que si c'était un scooter. Enfin, les scooters, ouais. C'est quand même ça des quoi, des 50 cm
cubes
peut mettre
possible.
Dans le
moto. Si on met des scooters à la place des motos, ça sera au moins des scooters 500 aussi, voire 600 cm3.
Oui, et ça, c'est
un scooter de oui, exactement.
Mais c'est beaucoup moins maniable pour les pilotes et ce sera peut-être beaucoup plus.
Non, c'est plus maniable pour le pilote s'il est tout seul, mais les motos ils sont toujours à deux. Donc c'est une belle bêtise qui nous dit là notre ami.
D'autant que lui, il s'est pas rendu compte, mais quand il tombe sur un autre coureur avec la masse,
c'est pas Greipel, hein, c'est Tony Martin et Marcel Kittel qui ont.
Ah bon, d'accord, j'avais compris Greipel.
Ouais, non, c'est oui, non, mais je crois que
c'est l'importance des motos a toujours été.
Sans moto, vous n'organisez pas de course.
On peut pas, et en plus sur le Tour de France et sur les grandes courses en général, les motos sont aguerries, les motards sont aguerris, à l'image de notre Marco National, et c'est des gens qui connaissent très bien la course. Non, le problème, ce sont les motards qui arrivent dans le milieu.
Oui, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Tout le monde est obligé de passer une sorte.
Pas sur toutes les courses, Christophe. Chez ASO, oui, on fait passer des espèces de. Mais il y a des courses. Il y a des courses où on n'a pas besoin de cette licence, et bien souvent, c'est dans ces courses-là qu'il arrive des graves accidents, surtout cette année.
Oui, parce que mine de rien, Cyril, il y a quand même assez peu d'accidents de ce genre sur les routes du Tour. On se souvient il y a quelques années de cette voiture qui avait envoyé Valdinguer par-dessus les fils de fer barbelé un coureur néerlandais.
Johnny Hogerland, ouais. C'était sur la route de Saint-Flour le jour où Luis Leon Sanchez s'était imposé avec Thomas Vauclair qui prenait le jaune. Effectivement, c'était le début d'une longue série, Cyril. Hein. Oui, la majorité des incidents ont eu lieu sur des courses belges ces dernières années. On avait également vu que sur Paris-Roubaix, ça posait des complications. Il y a de plus en plus d'accidents.
De plus en plus, on les signale plus, mais bon, il y a des enquêtes, il y a des commissions qui sont mises en place actuellement pour essayer de trouver, de se rapprocher du risque zéro. Mais il faut bien savoir que si vous n'avez pas de moto, vous pouvez pas organiser une course de vélo. Ou alors vous faites un critérium sur 2 km, et puis l'affaire est classée. Le problème, c'est que si on prend l'ensemble des sinistres qui sont déclarés suite aux chutes, le nombre de facteurs qui rentrent dans cette sinistralité sont nombreux et complexes. Il n'y a pas que le fait de la moto. Moi, j'ai pu observer une chute qui avait eu lieu sur une course belge. Visiblement, le coureur qui est accroché par la moto n'entend pas la moto.
C'était sur le Tour des Flandres avec Jesse Sergeant, non ?
Non, c'était pas Sergeant. Non, mais c'est celui qui a eu une deuxième chute d'ailleurs ensuite. Brox, oui. Visiblement, quand il s'écarte de la première position du peloton, il traverse la route sur 3-4 mètres. La moto ne peut pas l'éviter, mais je suis pas sûr qu'il l'ait entendu. Mais le problème, c'est qu'il faut entendre les motos quand elles arrivent. Si vous avez un directeur sportif qui vous braille dans les oreillettes derrière, vous n'entendrez jamais la moto. C'est-à-dire que, je veux dire, il faut partager, il faut partager la route entre les motos et les cyclistes, parce que les motos qui doublent le peloton, elles le font pourquoi? Parce qu'elles se sont arrêtées à un rond-point, à un endroit qui était dangereux, pour signaler avec le drapeau jaune qu'il y avait un danger. Bon, mais une fois que le peloton est passé, il faut bien qu'elle remonte. Or, vous avez aussi beaucoup de coureurs qui ferment la porte aux motos qui remontent. Donc, vous savez, c'est pas très simple, cette affaire-là. Il faut vraiment la regarder avec beaucoup d'attention et puis mettre des règles, on va dire, de convivialité entre les coureurs cyclistes et les motards.
Le cœur du débat n'est-il pas là, d'ailleurs? Est-ce que les oreillettes empêchent certains coureurs d'entendre le bruit de la moto, d'être concentrés sur les règles de circulation du peloton? Jérôme, tu sors du peloton pro. Est-ce qu'il y a des attitudes qui diffèrent selon qu'on a l'oreillette ou pas?
Assurément pas, parce que on l'a à l'image d'ailleurs, le problème principal du son, c'est pas l'oreillette, c'est tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et notamment
les
hélicoptères. On est souvent plus souvent gêné par l'hélicoptère que par l'oreillette. L'oreillette, peut-être parfois, on est en train d'écouter les consignes et un moment de déconcentration, mais le bruit ambiant, les spectateurs, les hélicoptères, les motos, les voitures, tout ça, oui, c'est sûr, c'est tout ça ajouté. Alors, on parle de convivialité, de règles au peloton. Sagan, notamment ces derniers temps, lui peste contre le comportement de certains coureurs. Les temps changent, c'est comme ça. Il y a tellement de nervosité dans le peloton.
Dans le peloton, quand on
c'est infernal. On finit très fatigué et on a souvent mal à la tête le soir parce qu'on s'est fait mal aux jambes, parce qu'on a fait des efforts violents, mais aussi parce que on n'entend rien. C'est toute la journée un brouhaha entre tous ces éléments-là extérieurs et puis le bruit du peloton. On n'entend pas les coups de frein non plus. Donc tout ça, oui, ça augmente le risque, ça augmente la nervosité et forcément ça crée des accidents, mais on le sait aussi, ces accidents sont souvent ont souvent lieu dans les courses belges où là on traverse des toutes petites routes, c'est à droite à gauche, et je pense que voilà, la nervosité du peloton est surtout due à la pression ambiante, l'argent qui est là dans le vélo, qui augmente la pression pour de résultats de la part des équipes sur les coureurs. On a l'impression de jouer sa vie à chaque étape sur un grand tour, et c'est surtout ça qui augmente le risque et de chute et de nervosité dans le peloton.
Bon, on va clore là le débat. Pour l'instant, tout va bien sur la route du Tour, il n'y a pas eu d'accident, les motos sont bien.
On touche du bois, hein.
Oui, on touche du bois, évidemment, tous les jours. Allez, on revient en tête de course parce que reparti.
29 km à parcourir sur cette 11e étape qui se voulait de transition entre Carcassonne et Montpellier. On touche du bois effectivement pour qu'il n'y ait pas de gros accidents, de grosses chutes d'ici la fin du Tour de France, et on visse à l'avant du peloton. Les équipes de sprinteurs sont là, mais les équipes spécialistes des bordures sont à la barre aujourd'hui, avec notamment les BMC de Richie Porte, de TJ Van Garderen, qui sont en train d'accélérer de nouveau. On aperçoit Marcus Burgaert notamment, le géant allemand de l'équipe BMC, Michael Schaar, son coéquipier suisse. Les BMC sont relayés par les Tinkoff et notamment Matteo Tosato, l'italien. Vous voyez que ce sont toujours les mêmes qui viennent mettre la pagaille à l'avant du peloton et essayer de profiter de cette tramontane qui souffle fort aujourd'hui sur les routes du Tour pour créer des cassures, des bordures. Les plus vigilants sont à l'avant de la course. Ceux qui sont en souffrance sont à l'arrière du peloton, et parmi eux Thibaut Pinot, qui vit une journée galère, lui qui n'aime pas trop frotter et qui depuis le début de l'étape se retrouve régulièrement attardé dans des groupes piégés.
Alors il y a une petite trêve là, parce qu'on était dans les abris et puis maintenant on est sorti. Quand je dis des abris, dans les petites villes, le vent ne soufflait plus énormément, il était coupé, et maintenant immédiatement, dès qu'on est ressorti en pleine campagne, c'est reparti.
Ouais, et il me semble que Rafał Majka est un petit peu en difficulté, Jérôme.
Il a fait partie de ces nombreux coureurs, comme le disait Fred tout à l'heure, avoir fait le drapeau, et effectivement quand on fait l'élastique sur ce genre d'étape, l'élastique il finit par péter et puis là on s'écarte et c'est fini. Mais on vient de changer de direction, clairement. On a vu à l'instant, hein, l'équipe BMC a pris la course en main, parce qu'on est sorti d'un rond-point, on a repris sur la gauche de la route, et sur la gauche de la route ça augmente le vent de côté et c'est rebelote. Il y a beaucoup de coureurs qui s'écartent à l'heure actuelle et on va repartir sur la formation d'éventail, et là ça risque de durer jusqu'à l'arrivée à Montpellier.
Ah voilà, il y en a certains qui cherchent à éviter la caillasse, mais c'est compliqué. Des petites cassures dans le peloton. On va vous faire un point complet dans un instant. Nous sommes à 27 km 100 de l'arrivée à Montpellier. Et aujourd'hui, c'est une étape vraiment très, très mouvementée que nous livrent les coureurs de ce Tour de France. A tout de suite sur RMC.
Retrouvez tout RMC sur rmc.fr.
Voilà Fred, on fait un point complet, 27 km de l'arrivée avec un peloton qui a une forme caractéristique, avec une sorte de gros peloton à l'avant et puis derrière en file indienne.
Un gros tétard,
exactement. Ça,
un gros tétard.
Oui, l'avant du peloton effectivement avec une forme massive. On roule pas bien vite, on roule à 40 km/h, on est à 27 km de l'arrivée et le scénario qui vient de se produire avec les équipes Tinkoff et BMC qui se sont relayées pour mettre le peloton en file indienne s'est calmé, mais il y a des restes comme on dit. La fin du peloton est très étirée avec des cassures et des coureurs qui vivent vraiment une journée galère. Les coureurs qui sont en méforme aujourd'hui, qui n'ont soit pas digéré le massif pyrénéen et la première semaine de course, soit souffrent de la journée d'hier ou sont en train de vivre un jour sans, eh bien sont régulièrement piégés et font la course à l'arrière. On a par exemple Thibaut Pinot qui est cité parmi les attardés depuis le début de l'étape. Il a chuté, Thibaut Pinot, on le rappelle, en tout début d'étape, notamment avec le néo-zélandais George Bennett. On est à 26 km de l'arrivée. Les Sky, les Tinkoff et les BMC sont à l'avant de la course. On aperçoit également Nairo Quintana, hein, qui est quatrième du classement général et qui est en train de se ravitailler dans les toutes premières positions du peloton. Vigilance extrême avec une tramontane qui souffle très fort. Peloton à nouveau groupé à 26 km de l'arrivée. Selon toute vraisemblance, on devrait assister à une arrivée massive aujourd'hui. Notons la présence dans le peloton encore aujourd'hui de Cavendish, de Kittel, de Greipel et de Peter Sagan, évidemment. Peter Sagan qui fait rouler ses coéquipiers de la formation Tinkoff depuis le début de l'étape. Christopher Froome est également, lui, particulièrement vigilant sur la droite de la route. En dixième position, le maillot jaune britannique, particulièrement aux aguets.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC jusqu'à 18h, intégral tour, Christophe Cessieux.
Pour le final de cette 11e étape du Tour de France, nous sommes dans le sud avec de la tramontane et du Mistral qui souffle violemment aujourd'hui sur le peloton du Tour de France. Alors certains évidemment au bord de la mer s'en donnent à cœur joie avec tous les kitesurfers qui s'éclatent sur les plages de la Grande Motte de à côté de Sète également. Mais pour les coureurs du peloton, c'est évidemment une autre paire de manches avec ce vent qui est propice au coup de bordure et le peloton qui a une nouvelle fois accéléré, toujours sous l'impulsion des coéquipiers de Peter Sagan, Fred.
Oui, les Tinkoff, les maillots jaunes fluo sur la gauche du peloton qui font la guerre avec les BMC de Richie Porte notamment pour occuper les toutes premières positions. Les efforts des uns et des autres varient simplement en fonction de l'orientation du vent. Le vent souffle toujours aussi fort, mais selon qu'il est de côté ou de dos ou de trois quarts favorable, eh bien on se met à la barre ou on temporise. En ce moment, les maillots jaunes fluo de la formation Tinkoff sont sur la gauche de la route. Sur la droite, ce sont les Sky de Christopher Froome. Ce sont là les deux équipes les plus actives en ce jour de grand vent. Cette étape de transition qui se transforme en étape de grande tension. Les Movistar sont également là pour protéger les intérêts de Nairo Quintana et les BMC sont également à la barre. Voici les quatre équipes qui occupent l'avant, le devant de la scène, l'avant du peloton. Tinkoff, Sky, BMC et Movistar, peloton groupé à 22 km de l'arrivée.
Cyril, vont-ils y arriver là? Vont-ils arriver à piéger des leaders, soit des sprinteurs, soit des grands leaders du classement général?
Oui, c'est toujours possible, hein, surtout quand bon, on va pas le redire 5000 fois, compte tenu des conditions de course, tout est possible. Jusqu'aux trois derniers kilomètres, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le vent. Un accrochage entre deux coureurs, la bordure est partie devant, un coureur qui va à un moment se retrouver dans le vent et qui va sauter, parce que là, pour l'instant, on est à 21 kilomètres de l'arrivée, il n'y a pas d'échappée, ça roule très vite, mais pour l'instant, le vrai train est pas vraiment lancé. Comme il le sera pour emmener les sprinters. Donc pour l'instant, tout le monde essaye de rouler en tête de peloton à une vitesse juste en dessous le max pour essayer de faire en sorte qu'il se passe rien. Là, on est dans une forme de neutralisation. Vous avez deux, trois coureurs avec leur leader dans la roue et on reste là. On a vu d'ailleurs tout à l'heure Valverde qui discutait avec avec les Sky et qui semblait demander bon, attends, montons la bordure tous les deux quoi. Si on la monte tous les deux, on se protège. Nous, on ne risque rien et vous ne risquez rien. Donc, on en est dans ce jeu-là, à moins de 20 km de l'arrivée maintenant.
Jeu effectivement du chat et de la souris entre.
Eh oui, parce qu'on peut bénéficier d'un incident de course sur ce final, mais. Attention. Ça peut être l'inverse. Donc si on peut se protéger, c'est parfait.
Attention à la sortie de ce village, notamment on arrive à Montbazin. Là, on va retrouver encore une fois la direction propice à des bordures. Donc on va certainement se remettre en route encore une fois du côté des sprinteurs. Et on a perdu, on avait trouvé cette habitude il y a quelques années de voir une équipe, voire deux, roue dans roue s'organiser. Maintenant, c'est plus chaque équipe du côté de sa route se prend sa trajectoire et se crée son propre train. Mais ça roule quand même très vite derrière. Ça n'empêche pas que le peloton évolue à très vive allure et que quand on va arriver sur le final et les vrais lanceurs, les quatre derniers coureurs avant le sprinter vont mettre en route, ça risque d'être très très étiré derrière et à jusqu'à 3 km de l'arrivée, comme tu le disais Cyril, ça risque d'être dangereux. Après on rentre dans Montpellier, on est plus à l'abri, on a du vent de dos plus favorable, mais attention à rester vigilant jusqu'au bout pour les coureurs qui sont en passe de faire un gros résultat sur ce Tour de France.
Et puis évidemment il y aura peut-être aussi des séquelles physiques demain pour l'étape qui montera au Ventoux, parce que aujourd'hui ça devait être une étape de transition, tout le monde devait se reposer tranquillement, enfin mis à part quelques coureurs échappés éventuels, mais demain on risque de payer tout ça parce que l'ascension vers le Mont Ventoux, si elle se fait, on vous rappelle que il y a une petite incertitude concernant l'arrivée de cette étape demain au Mont Ventoux en raison des conditions de vent qu'on annonce une nouvelle fois très musclées, ça risque de se payer demain, Jérôme, ça.
Ouais, bien sûr, c'est pas des étapes de transition et on en a pas eu. On attendait hier une étape de semi-transition, on a vu la baston entre les plus forts. On attendait aujourd'hui une étape tranquille en allant vers la mer à Montpellier où on s'est dit on va récupérer. Eh bien non, encore une fois non. Et on annonçait ces deux étapes comme pratiquement les deux étapes les plus faciles du Tour de France. Eh bien c'est pas le cas. Et demain on attaque le Ventoux et on va vite arriver dans la dernière semaine dans les Alpes. Donc effectivement les coureurs n'ont pas le temps de souffler et ça risque de peser lourd. Non pas forcément demain vers le Mont Chauve, mais surtout dans les quatre dernières étapes dans les Alpes où là les organismes seront très très fatigués et ça risque de peser lourd dans les Guibolles effectivement.
Eh oui, la dernière semaine s'annonce effectivement copieuse pour tous les coureurs du peloton. Fred, on fait un nouveau point sur la course, on s'approche de l'arrivée des 20 derniers kilomètres de cette étape.
Oui, un peloton groupé à 20 kilomètres de l'arrivée effectivement, on va rentrer dans des portions de route totalement favorables aux coureurs avant d'entrer dans les contreforts de Montpellier où là les coureurs seront davantage abrité évidemment puisqu'on sera dans des zones très habitées et particulièrement couvertes alors que le vent souffle depuis le début de la journée, on le rappelle, 20 km à parcourir pour un peloton toujours emmené par les Tinkoff de Peter Sagan et les Sky du maillot jaune Christopher Froome, accalmi en ce moment au milieu des vignes du Languedoc en direction de Montpellier, accalmi avant la prochaine tempête, le calme avant la tempête. Le peloton est à nouveau groupé alors que pendant de nombreux kilomètres on a eu une scission, plusieurs groupes, plusieurs éventails étaient disséminés sur la route de la course. Le calme avant la tempête et avant une très probable nouvelle arrivée au sprint. Rappelons que Montpellier c'est quand même devenu ces dernières années le paradis des sprinteurs avec 4 victoires consécutives pour les sprinteurs. Le dernier en date c'était en 2013, André Greipel.
Le gorille de Rostock va-t-il à nouveau frapper dans quelques minutes, dans 19 km exactement? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Notre gorille nous a rejoint. Non, c'est pas un gorille, c'est un petit chimpanzé. C'est notre Dédé qui est là.
Il est où, Dédé?
C'est pas du tout un gorille. Il a une allure de mannequin.
Bien sûr, oui, mais... de mannequin. Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ça, c'était jadis. Ça, c'était avant.
C'est avant le départ du Tour.
Avant le départ. Oui, exactement.
Combien de kilos supplémentaires depuis? Non,
je n'ai pas de balance. Mais vaut mieux pas. Je pense qu'à la pesée, je vais passer au super lourd.
Dédé, c'est mannequin dans la brume.
Oh, c'est joliment dit, ça, Fred.
Bon, André, l'Assemblée des départements qui nous façonne cette petite route. Il y a quand même un paquet de ralentisseurs et autres. saloperie du genre quand même hein, sur cette étape aujourd'hui.
Les saloperies du genre, c'est 53 ralentisseurs, c'est le record de ce Tour 2016. Donc c'est voilà, c'est des dodanes, des gendarmes couchés en tout genre. Et puis également énormément de ronds-points, de rétrécissements, de passages en agglomération avec des routes parfois étroites, des rétrécissements extrêmement difficiles à passer. D'autant plus que certains départements participent beaucoup à la grande fête du Tour de France et d'autres y participent un peu moins.
Tu veux dire que dans le sud on est un peu plus feignant, c'est ça que tu es en train de me dire là.
C'est un peu l'idée.
Bon, tu vas te faire des amis demain, si tu vas passer avec ton gros Léon, tu vas prendre des cailloux. Hein.
Je vais me faire des amis. Dans l'autre, ça s'est très bien passé, ils ont fait un très très beau travail. En revanche, dans l'Hérault, c'est toujours un peu plus léger. Ce qui fait qu'on a trouvé un plan B, maintenant on le sait, et le plan B c'est de mettre des matelas jaunes. Je sais pas si vous avez vu ça en prenant la route du Tour, des matelas jaunes sur les endroits difficiles qui remplacent les bottes de paille qui font parfois défaut. On a placé une centaine de matelas jaunes et puis on a joué aussi de la bombe, du tag, du street art, puisqu'on a mis des bombages de couleurs pour que les coureurs et les suiveurs puissent être orientés et ne pas se planter sur des têtes d'îlots ou sur des trottoirs saillants.
Ouais.
Donc ça c'est important aussi de faire ce genre de bombage.
André, un petit mot sur l'étape de demain à l'arrivée au Mont Ventoux. Évidemment, on nous annonce, on ne sait pas trop où l'étape va se terminer. Il y a une grosse incertitude là-dessus.
Absolument.
Est-ce que tu as des nouvelles de tes équipes qui sont déjà en train de travailler sur le Ventoux?
Alors j'ai les équipes qui sont en train de travailler sur le Ventoux. Il y a énormément de vent. Ils sont encore un peu, ils savent pas trop. C'est la direction de course, c'est le Tour de France
qui prend la décision au cours de l'étape. Hein.
Absolument.
On ne saura pas
tout
avant.
À fait. Ça c'est la responsabilité du Tour, de l'organisateur de la course, de prendre ce type de décision. Nous on ne peut être là que pour leur donner du conseil, de leur dire bah voilà, on est dans une situation extrêmement tendue. Il y a du vent, il y a des difficultés, il y a du danger. Et donc là on vous suggérerait éventuellement. Mais ce sont de grands garçons. En plus ils ont l'habitude du Ventoux, ils ont l'habitude évidemment des courses et ils prendront leur décision en responsabilité.
Effectivement, et on le saura sans doute demain au cours de la journée. On attend, on espère une petite accalmie de ce Mistral qui souffle très fort aujourd'hui et demain. Hein, le Mistral c'est 3-6-9. Normalement c'est comme ça qu'on dit.
Absolument.
Hein, quand on est originaire du Sud. Il souffle 3 jours. Si ça s'arrête au bout de 3 jours, c'est bien. Autrement c'est reparti pour 3 jours supplémentaires. C'est ce qu'on dit. Voilà la légende en tous les cas. Merci André. Tu reviens demain évidemment pour nous parler de cette arrivée au Ventoux qui sera, on l'espère, spectaculaire et on espère surtout que l'arrivée se fera tout en haut de ce Mont Chauve, le géant de Provence qui a évidemment fait partie de la grande histoire, de la légende du Tour de France, Fred.
Oui, ce serait quand même fort dommage d'escamoter cette difficulté majeure avant une troisième semaine très dense dans les Alpes avec 4 étapes alpestres. Non, monsieur Eyal, ne nous privez pas d'une arrivée au sommet du Ventoux à 1912 mètres, ce serait trop dommage et je suis sûr que les coureurs eux aussi, même si le menu qui leur est proposé sur ce Tour 2016 est déjà fort copieux, je suis sûr que les coureurs aimeraient pour leur gloriole personnelle et pour leur bravoure faire l'ascension de ce géant de Provence particulièrement esthétique et télégénique.
Voilà, en tous les cas il y a des cassures également dans un autre peloton puisqu'on aborde la Camargue, dans le peloton des Flamants Roses qui sont un peu effarouchés par les hélicoptères. Il n'y a pas que les coureurs qui sont victimes des hélicos, les Flamants Roses aussi sur la route du Tour de France aujourd'hui et qui approche de la Camargue, enfin qui a longé la Camargue. Nous sommes à 16 km 200 de l'arrivée, Fred, et la situation s'est quelque peu calmée.
Christophe,
Cyril.
Là, je suis allé chercher quelques informations concernant le vent demain sur le Mont Ventoux. On nous annonce au Chalet Reynard du vent entre 40 et 70 km/h. Donc, logiquement, ça doit passer.
Donc, ça passe. Alors, justement, comment on décide, Cyril, si ça passe ou non? Est-ce qu'il y a des rafales? La vitesse du vent entre en compte? La température?
Il n'y a aucune règle qui existe.
Il n'y a aucune règle.
Il y a actuellement une forme de règlement, mais qui est très évasif, qui dit on peut arrêter la course dans des circonstances qui mettraient en cause, etc.
Bon. Conditions climatiques extrêmes, on appelle
ça. Ça veut dire quoi, extrême? C'est-à-dire que si on dit, par exemple, qu'il ne doit pas y avoir de neige... Bon, Bernard Hinault n'aurait jamais gagné Liège-Bastogne-Liège, par exemple.
Oui,
bon,
évidemment.
Mais bon, c'est un débat qu'on peut avoir, mais il n'y a pas de règle. Si on dit, par exemple, le vent à 70 km/h, vous courez plus. Ben, on va arrêter pas mal de courses, quoi. Mais si les rafales, parce qu'on dit 40 km/h, rafale à 70. Donc logiquement, ça passe et c'est un vent de nord Donc de Nord, il serait plutôt favorable, je pense. À voir.
On verra ça en tous les cas demain pour cette étape qui promet avec l'arrivée au sommet du Mont Ventoux. 15 km de l'arrivée, Fred, rapidement un point pour l'instant, peloton groupé.
Oui, la course à l'approche du club Le Paradisio, cher à Jérôme Pinault, notre consultant préféré. On est à l'approche de Pignan, 15 km de l'arrivée. Le peloton est toujours groupé et particulièrement vigilant en ce jour de grand vent. Arrivé au sprint prévu ici à Montpellier dans quelques minutes.
Le Paradisio, tu disais, c'est où ça?
C'est sur la D613, ne le manquez pas.
C'est toi qui le connais très bien, ce club.
Allez, 14 km 500 de l'arrivée. Allez taper sur internet Le Paradisio, vous allez voir, c'est un bel endroit sur le bord de la route où Fred a voulu s'arrêter tout à l'heure, mais Jérôme évidemment lui a dit non, on continue. Allez, on revient dans un instant pour le final de cette étape.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.